Chapitre 6 Versets 1 à 3 Citation de l'Écriture. Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain, car il dit « Au temps agréé, je t'ai exaucé, et en un jour de salut, je t'ai secouru. » Voici, c'est maintenant le temps agréable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Ne donnant aucun scandale en rien, afin que le service ne soit pas blâmé. Fin de citation. À la fin du chapitre 5, l'apôtre nous dit qu'il supplie les pécheurs d'être réconciliés avec Dieu. Ce chapitre 6 débute par un appel aux saints, les exhortant à ne pas recevoir, ou avoir reçu, la grâce de Dieu en vain. Cette exhortation n'a pas du tout la pensée de remettre en question la sécurité du croyant, ni ne suggère que la grâce, une fois reçue, pourrait être perdue. Le contexte, avec le verset 3, montre clairement que c'est un appel à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu qui apporte le salut, à prendre garde de ne pas permettre, dans leur vie pratique, quoi que ce soit d'incompatible avec cette grâce. C'est une exhortation dont nous faisons tous bien de tenir compte, mais elle s'appliquait spécialement à ceux dont la conduite avait fait l'objet d'une censure sévère. Pour montrer la grandeur de la grâce de Dieu qui proclame le salut à un monde de pécheurs, l'apôtre cite Ésaïe 49. Dans cette prophétie, nous apprenons que Dieu a été glorifié en Christ, bien que Christ ait été rejeté par l'homme, et que Christ est glorieux aux yeux de l'Éternel. Ésaïe 49, versets 3 à 5. Puis, Dieu étant glorifié, nous apprenons qu'Israël sera restauré dans le futur, et que la bénédiction s'étendra aux gentils, apportant le salut jusqu'au bout de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Cela amène au passage cité par l'apôtre, Ésaïe 49, verset 8, qui nous dit que toute cette bénédiction vient par Christ qui a été exaucé, agréé et secouru par Dieu. Sur la base de tout ce que Christ est et a fait, la grâce de Dieu est prêchée aux gentils durant le temps où Christ est l'homme agréable dans la gloire et où les croyants sont agréables en lui, introduisant ainsi le sujet du jour où le salut est proclamé aux pécheurs. Combien il est important, en ce jour de salut, que ceux qui ont reçu cette grâce ne permettent rien d'incompatible dans leur vie qui scandaliserait ceux à qui la grâce est proclamée ou qui rendrait la prédication méprisable. Le christianisme doit être donné à connaître non seulement par la proclamation de grandes vérités, mais aussi par les vies transformées de ceux qui prêchent ces vérités. Versets 4 à 10 Citation de l'Écriture. Mais en toute chose, nous recommandons comme serviteurs de Dieu par une grande patience, dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice de la main droite et de la main gauche, dans la gloire et dans l'ignominie, dans la mauvaise et dans la bonne renommée, comme séducteur et véritable, comme inconnu et bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié et non mis à mort, comme attristé, mais toujours joyeux, comme pauvre, mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien, et possédant toutes choses. Fin de citation. Les versets 4 à 10 montrent une vie d'épreuve. Ainsi, dans un passage frappant, l'apôtre est amené à exposer ce qu'il vivait, lui et ses compagnons d'œuvre, avec des épreuves et de l'opposition qui non seulement n'apportaient aucun blâme sur le ministère, mais faisait voir des qualités morales qui recommandent les serviteurs. L'apôtre parle premièrement de circonstances éprouvantes communes à tous les humains, les tribulations qui touchent le corps, les nécessités qui proviennent des besoins quotidiens et les détresses causées par un manque de ressources pour répondre à ces besoins. Toutes ces choses étaient traversées avec patience ou endurance, ce qui recommandait les serviteurs. En second lieu, ses serviteurs se recommandaient par la patience avec laquelle ils affrontaient les épreuves spéciales qui les atteignaient en tant que serviteurs du Seigneur, les coups, les emprisonnements et les troubles. En troisième lieu, ils se recommandaient par la patience avec laquelle ils traversaient tous les exercices liés à l'œuvre du Seigneur et aux croyants, les travaux, les veilles et les jeûnes. Quatrièmement, ses serviteurs se recommandaient parce qu'ils manifestaient certaines belles qualités morales caractéristiques de Christ dans son chemin à travers ce monde. La pureté, la connaissance, la longanimité et la bonté. Cinquièmement, ils se recommandaient également par la puissance et les motifs qui les animaient dans leur service. Celui-ci était exercé non pas par la chair, mais par l'Esprit-Saint. Non pas dans la malice et dans l'envie, mais par un amour sans hypocrisie. Non pas selon les spéculations de l'homme, mais par la parole de la vérité. Non pas par la puissance de l'homme, mais par la puissance de Dieu. Sixièmement, ils se recommandaient par une vie de justice pratique en relation avec les hommes de toutes parts, qu'ils soient traités avec honneur ou déshonneur, dans la mauvaise ou la bonne renommée. Ayant ainsi la cuirasse de la justice, ils étaient armés contre toute attaque de l'ennemi. Septièmement, ils se recommandaient comme serviteurs de Dieu en suivant, dans leur mesure, le chemin où Christ avait marché en perfection. Dans un monde tel que le nôtre, le vrai serviteur de Dieu sera tantôt traité de séducteur par les uns et tantôt comme véritable par les autres. Il en était ainsi avec le Seigneur, quand certains osaient dire « Il séduit la foule », tandis que d'autres disaient « Il est un homme de bien », Jean 7, verset 12. Ainsi aussi, dans son chemin, le Seigneur a été traité d'inconnu, quand les pharisiens disaient « Pour celui-ci, nous ne savons d'où il est », tandis que l'aveugle-né guéri pouvait dire « Nous savons qu'il est de Dieu », Jean 9, verset 29 à 32. Lui aussi, à de multiples reprises, a été confronté à la mort, Luc 4, verset 29 et 30, Jean 8, verset 59. Et pourtant, il vivait. Jean 7, verset 30 et 8, verset 20. Dans toutes ces voies, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Matthieu 10, verset 25. En outre, nous devons affronter dans notre chemin ce qui était inconnu au Seigneur. Pour garder nos pieds dans le chemin, il se peut que nous devions être disciplinés par des circonstances éprouvantes, tout en étant préservés de la mort. Dans de telles épreuves, les serviteurs du Seigneur peuvent faire preuve de soumission, comme Job qui, dans sa grande épreuve, pouvait dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, verset 21. De telles voies du Seigneur nous préparent à entrer quelque peu dans les expériences du Seigneur, lui qui était en effet l'homme de douleur et avait pourtant une source de joie cachée. Luc 10, verset 21. Lui aussi est devenu pauvre, afin que, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Chapitre 8, verset 9. Et il a traversé ce monde comme n'ayant rien et possédant toute chose. Sans argent pour payer le tribut, il pouvait néanmoins commander aux poissons de la mer. Matthieu 17, verset 24 à 27. Ainsi, à la fois dans les circonstances qu'il traversait et les épreuves qu'il devait affronter, dans les exercices spirituels que leur service impliquait et les qualités morales qu'il manifestait, dans la justice pratique qui les caractérisait et dans le chemin qu'il foulait en suivant le Maître, dans tout cela, l'apôtre et ses compagnons d'œuvre se recommandaient comme serviteurs de Dieu. Versets 11 à 13. Citation de l'Écriture. Notre bouche est ouverte pour vous, ô Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles, et, en juste récompense, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous, vous aussi. Fin de citation. En passant en revue devant l'assemblée à Corinthe la vie qu'ils vivaient, il leur ouvrait grand son cœur, et le faire de cette manière était une preuve de son amour pour eux. Son cœur s'élargissait envers eux. Il n'avait pas une place étroite dans ses affections, même si eux avaient perdu leur affection pour l'apôtre. En outre, en leur ouvrant son cœur, il s'attendait à réveiller leur amour pour lui, et donc à ce que son amour à lui soit récompensé. Ils étaient ses enfants dans la foi, ils pouvaient donc bien compter que leur cœur s'élargisse en amour envers lui. Versets 14 à 18, les premiers versets du chapitre 7. Citation de l'Écriture. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti, avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliar? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Fin de citation. Après avoir fait appel à leur cœur, l'apôtre s'adresse maintenant à leur conscience. L'origine de leurs affections rétrécies envers l'apôtre pouvait provenir de leurs associations relâchées avec les incrédules. Comme toujours, les associations mondaines dérobent les affections spirituelles des croyants et les rendent impropres à la communion avec Christ et à la jouissance de la compagnie des chrétiens. Si l'œil est simple quant à Christ, nos pieds seront conservés dans le chemin étroit de la séparation du monde, tandis que nos cœurs s'élargiront vers tous ceux qui sont de Christ. Faisant allusion à la loi qui interdisait d'atteler ensemble sous un joug à la charrue des animaux différents comme le bœuf et l'âne, Deutéronome 22, verset 10, l'apôtre nous met en garde contre le fait d'être sous un joug mal assorti avec les incrédules. L'apôtre avance alors quatre raisons qui montrent l'inconséquence totale du joug inégal, le joug mal assorti. Premièrement, croyants et incroyants sont gouvernés par des principes opposés. La justice ne peut avoir aucune communion avec l'iniquité, ni la lumière avec les ténèbres. L'apôtre ne veut pas dire que l'incrédule est nécessairement malhonnête dans ses rapports avec son partenaire, mais il agit selon sa propre volonté sans tenir compte de Dieu et il marche dans l'ignorance de Dieu. Deuxièmement, croyants et incrédules ont des maîtres très différents. Le croyant est contrôlé par Christ, l'incrédule est dirigé par le prince de ce monde, Béliar, un nom qui implique une personne sans valeur, sans loi. C'est un mot utilisé comme nom propre désignant Satan. Quel accord peut-il y avoir entre Christ et Béliar? Troisièmement, s'il n'y a pas d'accord entre Christ et Béliar, il ne peut rien y avoir de commun entre ceux qui les suivent, les croyants et les incrédules. Quatrièmement, les saints de Dieu, considérés collectivement comme le temple de Dieu, ne peuvent pas être en accord avec ceux qui poursuivent un but idolâtre qui ignore Dieu. L'Écriture montre clairement que même sous la loi, l'intention de Dieu était d'habiter parmi son peuple. Exode 29, verset 45, Lévitique 26, verset 12. Ceci est vrai dans un sens beaucoup plus profond et plus spirituel depuis que le Saint-Esprit est venu, car l'apôtre peut dire « Vous êtes le temple de Dieu ». 1 Corinthiens 3, verset 16. Étant donné que les croyants sont caractérisés par la justice et la lumière, par le fait d'être sous la direction de Christ et de provenir du temple de Dieu, ils ont l'obligation impérative de sortir du monde et d'être séparés du mal. L'apôtre insiste sur son exhortation en faisant allusion à Ésaïe 52, verset 11, où nous lisons « Partez, partez, sortez de là, ne touchez pas à ce qui est impur, sortez du milieu d'elle, soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel. » L'apôtre cite de nouveau l'Ancien Testament pour montrer qu'en étant à l'écart, dans la séparation du monde et de son impureté, les croyants peuvent jouir de leur relation avec Dieu comme Père. En effet, la grâce a assuré cette relation aux croyants sur la base de l'œuvre de Christ. Mais ils ne peuvent en jouir que dans la mesure où ils sont séparés du monde et du mal qui s'y trouve. Le Père est toujours prêt à manifester son amour, mais il ne peut pas compromettre sa sainteté. L'apôtre cherche ainsi à éveiller nos consciences vis-à-vis de toute association incompatible avec notre portion et nos privilèges comme chrétiens, afin que nos pieds soient gardés dans le chemin étroit de la séparation, nos cœurs étant élargis de manière à embrasser tout le peuple de Dieu, tandis que notre marche reste dans la crainte de Dieu. L'apôtre résume son exhortation en faisant appel à ses saints en tant que bien-aimés, pour qu'ils agissent en se basant sur ses promesses et pour qu'ils se purifient de toute souillure de chair et d'esprit. Nous pouvons, hélas, être soigneux dans le maintien d'une vie extérieurement irréprochable, et être cependant négligents quant à nos pensées. Si nous marchons dans la séparation du mal en dehors et au-dedans, il y aura croissance dans la sainteté, tandis que nous marcherons dans la crainte de Dieu.